Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour aborder le chapitre 2 du livre de Daniel. Et ce chapitre est important puisqu'il y est décrit ce qui est passé dans le langage courant comme étant le colosse au pied d'argile. C'est la première vision qui nous est rapportée dans le livre de Daniel et toutes celles qui vont suivre vont nous parler du même sujet mais avec des optiques différentes. Alors, il me faut d'abord resituer le règne de Nebuchadnezzar dans son contexte. Une tablette au Pergamon Museum de Berlin contient un rapport sur les différentes observations astronomiques survenues au cours de la 37e année de Nebuchadnezzar. Et confronté aux données actuelles, on peut affirmer que cette année va d'avril -568 à avril -567. Ce qui place la première année d'avril 604 à avril -603. Et on sait qu'il y avait deux manières de compter, et on pouvait compter la même année d'octobre 605 à octobre 604. Bon. Donc, nous savons que la seconde année de Nebuchadnezzar, c'était en gros l'année -603. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes, et il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Daniel et ses compagnons, à cette date-là, sont déjà depuis 2 ans au moins à Babylone, et ils sont donc comptés parmi les étudiants et parmi les sages. Et le règne de Nebuchadnezzar est donc compté avec une année d'accession, puisque au moment où il a pris Babylone, il n'était pas encore roi et que cette année-là, son père étant décédé, était la dernière année de Nabopolassar et donc là, l'année d'accession pour Nebuchadnezzar. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Alors vous voyez qu'il y a ici 4 sortes de personnes qui sont convoquées devant le roi. Il y a d'abord les magiciens, et le mot semble évoquer également les scribes, les astrologues qu'on pourrait assimiler à nos astronomes, mais qui a évidemment développé aussi un art divinatoire, les enchanteurs qui étaient alors vraiment des devins, des jeteurs de sorts, et puis les chaldéens, qui étaient les princes et les chefs de tribu, qui étaient les dignitaires originaires de la Chaldée, et qui donc étaient les rouages du pouvoir. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Le mot qui est traduit par « agité » signifie « pousser », c'est-à-dire que Nebuchadnezzar se sent poussé à connaître ce songe, et il est vraiment très chagriné de ne pas se souvenir de ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. En langue araméenne, cela mérite une explication, parce que tout l'entretien s'est passé en langue araméenne. Pourquoi donc le signaler à ce moment-là? Eh bien, c'est que dans le texte de Daniel que nous avons, il y a, au verset 4 du chapitre 2, un changement de langue. Nous avons vu, ou nous verrons, que ce changement de langue correspond certainement à une longue histoire des documents qui, ayant été abîmés, ont vu une partie du texte, la première partie, le chapitre 1, et le chapitre 2 jusqu'au verset 4, ainsi que les 6 derniers chapitres, du chapitre 8 à 12, les 5 derniers chapitres plutôt, sont en hébreu. Donc, le texte ajoute ce supplément, qui est certainement postérieur à l'écrit initial, qui indique que là, il y a un changement de langue dans le texte original. « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Voici un schéma des langues qui sont utilisées dans le livre de Daniel. Et vous avez là ce que je vous disais tout à l'heure avec une première partie, le chapitre 1 et quelques versets du chapitre 2, et puis les chapitres 8, 9, 10, 11 et 12 qui sont en hébreu. L'entretien se passe-t-il uniquement avec les Chaldéens ? Probablement, il se passe d'abord avec les dignitaires, ce sont eux qui prennent la parole, mais évidemment, les sages sont là, et peut-être sont-ils plus sages que les Chaldéens, parce qu'on va voir que l'entretien va tourner au vinaigre. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Le roi répond aux Chaldéens, il est obligé de surenchérir, il se sent obligé de surenchérir. Les Chaldéens manquent-ils de psychologie ? N'ont-ils pas réalisé que Nebuchadnezzar est humilié de reconnaître devant tout le monde qu'il a oublié ce songe, qu'il n'en a pas le souvenir et qu'il n'en a pas l'interprétation ? Ils auraient dû se taire. Et il est des moments où le silence est d'or. Et Nebuchadnezzar reprend. « Si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Nebuchadnezzar est obligé de surenchérir à chaque réponse. Et il se sent obligé de garder la main, d'être celui qui, finalement, a la dernière proposition. Et à aucun moment il ne veut paraître déchoir. Mais il aurait fallu comprendre qu'il était bon de se taire. Et ils répondirent, les Chaldéens, pour la seconde fois. Et quand dans la discussion on est obligé de reprendre pour la deuxième fois la même chose, il faut se dire qu'il y a là une difficulté et un problème, et qu'on aurait mieux fait de reprendre les choses autrement. Et donc il répète que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. » Et là le reproche est explicite. Vous voulez gagner du temps. Vous espérez peut-être que je vais abandonner ma demande et que vous allez pouvoir trouver d'autres échappatoires. Si donc, vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Et nous voyons là que Nebuchadnezzar, derrière son apparente religion et son intérêt pour les sages, ne croit pas à la capacité des devins et à la validité de leur art divinatoire. Nebuchadnezzar remet en cause son système de croyance. Et il va dire quelque chose qui là est très important, en attendant que les temps soient changés. Nous verrons dans la réflexion de Daniel un petit peu plus tard que ces temps changés sont une allusion directe au fait que le roi change, parce que c'est le roi qui donne le temps. Nous avons actuellement un système universel. Et nous savons que nous sommes actuellement dans l'année 2017. Mais à l'époque, c'était la énième année, en l'occurrence là la deuxième année, du roi Nebuchadnezzar. C'est donc le roi qui donnait son nom à l'année. Et attendre que les temps soient changés signifiait attendre que le roi soit changé. Nous en verrons la confirmation. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Bien sûr, les Chaldéens peuvent attendre que les temps soient changés. mais ils peuvent peut-être provoquer le temps et provoquer le changement. Et Nebuchadnezzar n'est pas dupe de la soi-disant sagesse des Chaldéens, des enchanteurs et de tous les autres sages de Babylone. Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou Chaldéen. » Et là, il y a la tentative de la part des Chaldéens de se justifier. Mais en se justifiant, bien entendu, ils rejettent la faute sur Nebuchadnezzar. Et ils sont, avec beaucoup de politesse et de forme due à leur rang et au rang de Nebuchadnezzar, mais ils sont quand même obligés de lui dire « Jamais aucun roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose. » Et nous voyons donc qu'il y a là une quasi-insulte à Nebuchadnezzar. Ils sont en train de lui dire « Ce que tu demandes là est complètement déraisonnable. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Et on voit là les limites de la divination. Mais ils vont dire ici une vérité qu'ils croient absolue, c'est le fait que les dieux n'ont pas leur demeure parmi les hommes. Nous verrons que Daniel, en répondant à cette question, va apporter la preuve que Dieu, son Dieu, est un Dieu qui communique. C'est un Dieu qui intervient dans la vie des vivants. Il n'y a pas deux mondes séparés, le monde des dieux et le monde des hommes. Pour les Chaldéens, il y a deux mondes séparés. Et la pratique de Daniel, ce qu'il va montrer à Nebuchadnezzar, c'est un Dieu qui communique, c'est un Dieu qui intervient, et c'est ce que Nebuchadnezzar lui-même va traduire par « c'est un Dieu vivant ». Les sages essaient de se disculper, mais ils sont amenés à dire au roi des vérités, certes, mais des vérités qui frisent l'insulte. Pour eux, il n'y a pas de communication entre le monde des dieux et le monde des hommes. Bien évidemment, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Cette colère-là, elle est en train, de la part de Nebuchadnezzar, de détruire toute son œuvre. Alors que toute la tension de Nebuchadnezzar consiste à bâtir un royaume sur la sagesse, sur le savoir, sur la transmission du savoir, voilà qu'il est en train de décider brutalement que tout ce qu'il a mis en place, toute cette université à réputation mondiale, il va la détruire. Et il demande que tous les sages de Babylone périssent. Et on cherche Daniel et ses compagnons. Donc il détruit également les sages, les étudiants en sagesse. Regardez ce que dit le Proverbe, chapitre 14, verset 17. « Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire à la haine. » Nebuchadnezzar, à cette occasion, c'est bien sûr attirer la haine. Et il a beau être un monarque puissant, il sait que si cette haine se concrétise et si les grands, les Chaldéens, complotent, alors il ne pourra pas donner chair de sa vie. Il le sait, il le comprend, et c'est pourquoi il veut prendre de vitesse ces Chaldéens et il décide de les mettre à mort avant que même complote et n'essaie de le mettre à mort. Il y a donc là une course de vitesse qui peut peut-être expliquer le caractère dramatique et le tour dramatique que prend cette discussion. J'aimerais vous citer un autre verset des Proverbes. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Et j'aimerais maintenant, à travers ces choses-là, vous dire que ces hommes-là, ces Chaldéens, ont fait tout ce qu'il fallait pour irriter Nebuchadnezzar. Mais il est vrai aussi que Nebuchadnezzar a manqué de sagesse et qu'il a provoqué la colère des Chaldéens. Et nous allons voir intervenir maintenant Daniel. Et Daniel, au contraire, va être de ces sages, vraiment sages, de ceux qui calment la colère. Et il va savoir ce qui convient à ce moment-là. Et ce qui convient, c'est justement une question de temps. Il y a eu une course entre les Chaldéens et Nebuchadnezzar. Chacun voulant pour les uns se justifier et pour les autres justifier son exigence. La première chose que Daniel va demander, c'est du temps. Et en demandant du temps, il va faire tomber la tension. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. C'est une leçon que nous pouvons tirer de ces quelques versets. Mais nous allons voir que Daniel, malgré son jeune âge, il a peut-être 20 ans, malgré son jeune âge, montre là plusieurs traits de sagesse. Et je vous invite maintenant à regarder la suite de cette émission et voir la suite du texte. Mais chaque texte nous apporte en lui-même un trait de sagesse qui est encore valable aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.